Le journal est présenté par Thomas Pontillon.
Bonsoir. Il dénonce une manipulation honteuse. Nicolas Sarkozy, menacé par un procès, s'exprime ce soir pour la première fois et affirme sa détermination à poursuivre la campagne des primaires. Vous l'entendrez. Un chiffre dans l'actualité, 18 comme 18 Français partis depuis le début de l'année en Irak et en Syrie. C'est 4 fois moins que l'an dernier. Une baisse conséquente qui s'explique par les revers subis par Daesh sur place, mais aussi l'arsenal juridique déployé en France. 30 millions d'euros pour sécuriser les universités. La provenance de l'argent fait grincer des dents. La somme est prise au fonds d'insertion pour les personnes en situation d'handicap. On en parle avec notre invité dans ce journal. Et puis l'Afghanistan, toujours secoué par les attentats, 4 en moins de 24 heures. Le bilan est lourd, 41 morts et les talibans ciblent une ONG et des civils. 24 heures après les réquisitions du parquet de Paris, favorable à un renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement de la campagne de 2012, l'ex-chef de l'État réagit. Hier, il avait gardé le silence et envoyé son avocat devant les micros et les caméras pour dénoncer une manœuvre politique. Nicolas Sarkozy parle aussi ce soir d'une manipulation. Il l'a dit lors d'une réunion publique à Poissy dans les Yvelines.
J'ai vu beaucoup de gens de ce département, d'habitants, qui m'ont dit « faut y aller ». Je veux leur dire en deux phrases, mais qui viennent du plus profond de moi-même. Aucune polémique, aucune manœuvre, aucune manipulation, aussi honteuse soit-elle, ne me détournera d'un centimètre de ma volonté absolue de construire avec vous une alternance forte, une alternance franche, une alternance perceptible par tous les Français.
Nicolas Sarkozy, ce soir, au micro de Mathieu Mondoloni. Et pour rappel, les juges ont un mois pour décider ou non d'un renvoi en correctionnel dans cette affaire. C'est une nette diminution, selon les mots de Bernard Cazeneuve. De moins en moins de djihadistes français se rendent en Syrie ou en Irak. 18 depuis le début de l'année, contre 69 l'an dernier à la même époque. C'est 4 fois moins, Eric Biegala.
Le ministre de l'Intérieur a expliqué cette sorte de chute des vocations, si l'on peut dire, par les récents revers subis par le groupe État islamique dans son fief irako-syrien, mais également par, je cite, les efforts de la lutte antiterroriste en France et l'arsenal juridique déployé depuis les attentats de Paris. On pourrait également ajouter une donnée matérielle probablement très importante, la quasi-fermeture de l'accès au territoire syrien, particulièrement celui occupé par l'État islamique. Durant les 6 premiers mois de 2015, en effet, les apprentis djihadistes français peuvent encore rejoindre le territoire syrien assez facilement, notamment en passant par le poste frontière turco-syrien de Tal Abyad. La ville est en effet le principal point d'entrée international sur les terres de l'État islamique. Qui plus est, à cette époque encore, les autorités turques ne font pas particulièrement attention à ces djihadistes potentiels qui transitent par son territoire et qui se mêlent aux plus de 1 million de Syriens présents sur son sol, parmi lesquels des combattants rebelles, djihadistes ou non. Mais depuis juin 2015, la ville de Tal Abyad a été prise par les Kurdes, coupant cette voie d'accès, et la Turquie, elle-même touchée à partir de cette époque par plusieurs attentats sur son sol, commence à surveiller d'un peu plus près la faune djihadiste présente sur son territoire et arrête dorénavant plus volontiers les apprentis djihadistes, notamment les étrangers.
Et dans ce contexte, avec les menaces d'attentats, les universités françaises vont recruter des vigiles. Ils seront à l'entrée pour assurer la sécurité. Elle atteint coût. 30 millions d'euros sont débloqués par l'État pour aider les établissements. De l'argent qui pose question, et on en parle avec notre invité Olivier Hertzscheid. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant-chercheur à Nantes et vous poussez un coup de gueule aujourd'hui contre ces 30 millions qui devaient être utilisés pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Une histoire ahurissante et cynique, dites-vous.
Oui, moi, juste pour préciser d'où je parle, moi je suis ni spécialiste du handicap ni des finances publiques, je suis un acteur de la communauté universitaire et je suis tombé effectivement un petit peu par hasard sur un article du site Éduc Pro qui indiquait qu'une dotation de 30 millions d'euros allait être versée aux universités pour dans le cadre du plan effectivement de sécurisation des locaux, des bâtiments avec les attentats. Et puis dans cet article, on apprenait qu'en fait, cet argent, il serait prélevé sur un fonds qui est le fonds du FIHPFP, qui est le fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les universités cotisent chaque année auprès de ce fonds, ou plus exactement, elles payent une amende puisqu'elles n'atteignent pas les seuils qui sont fixés par la loi en termes d'emploi de personnes en situation de handicap. Et jusqu'à maintenant, cette amende était minorée. C'est-à-dire qu'en gros, elles payaient un tiers de l'amende qu'elles auraient dû payer, donc en gros 15 millions d'euros par an. Et cette année, ça devait être la fin de ces amendes minorées, et donc les universités auraient dû verser non plus 15, mais 45 millions d'euros. Donc en fait, par un petit tour de bonneteau budgétaire ou de passe-passe politique, on nous explique qu'en fait, ces 30 millions d'euros supplémentaires qui auraient dû être versés par les universités dans le cadre de ce fonds allaient rester dans le crédit des universités, mais effectivement pour embaucher des vigiles. Donc j'ai trouvé ça un petit peu étonnant, même si j'ai bien conscience, encore une fois, que évidemment il faut prendre des mesures et évidemment il n'y a plus d'argent de nulle part. Mais ceci étant, ce qui est au-delà de la forme, qui me paraît assez indélicate et des enjeux, j'ai aussi été étonné de la réaction du président de la conférence des présidents d'université qui exprimait son soulagement suite à cette annonce, puisque, disait-il, ils allaient effectivement pouvoir payer des vigiles grâce à cet argent-là.
Donc, oui, parce que justement, et Jean-Loup Salzman, donc le président de la conférence des présidents d'université, parle véritablement d'un soulagement, parce que c'est vrai que le contexte sécuritaire a changé depuis un an avec les attentats, ce qui n'est pas le cas du contexte économique.
Non, c'est pas le cas du contexte économique, mais ce qui est assez énervant, encore une fois, il y a le fond du sujet, c'est-à-dire effectivement, c'est quand même de l'argent qui devrait revenir à ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire aider l'insertion des personnes handicapées, même si les universités font déjà beaucoup dans l'accompagnement de ce type de personnel, puis des étudiants en situation de handicap. Il y a un déficit effectivement en termes d'argent qui est devenu assez problématique pour les universités, mais le problème c'est que de l'argent, s'il faut en prendre quelque part, ne le prenons pas là, et de l'argent, il y en a. Il faut savoir que si les universités sont, pour la plupart d'entre elles, l'année dernière, il y a eu une vague d'universités qui a été mise sous tutelle du rectorat parce qu'elles ne maîtrisaient plus en fait leur enveloppe budgétaire. Cette mise sous tutelle, elle résultait d'abord du fait que l'État n'a pas payé aux universités ce qu'il leur devait. Et que du coup, voilà, il n'y a pas eu d'autre choix ensuite que ces mises sous tutelle. Et des sources de financement, il y en a malheureusement. Il y a notamment le cas notoire du Crédit Impôt Recherche, qui depuis à peu près 2008 est complètement dévoyé de sa finalité initiale. Il y a encore eu un article récemment sur le site des décodeurs du Monde qui démontrait l'opacité de ce système et le fait que ça ne sert plus du tout à financer la recherche, mais que c'est un moyen simplement pour quelques entreprises de se mettre à l'abri de l'imposition. Donc voilà, il y a un tour de bonneteau budgétaire qui est à mon avis assez, sinon scandaleux, en tout cas assez indélicat. Il y a ensuite un vrai problème qui est qu'il faut sécuriser les bâtiments, mais pas avec ce type de fonds. Et puis il y a ensuite le positionnement qui, moi, m'a paru assez étrange, pour utiliser un doux euphémisme, du président de la CPU qui fait part de son soulagement, alors qu'à mon avis, c'était pas trop l'objet de... En tout cas, c'était assez inapproprié.
Oui, vous parlez même de faute morale.
Oui, parce que c'est une source de financement qui n'en est pas une, d'abord, puisqu'on ment. En fait, on ne donne pas, l'État à aucun moment ne verse d'argent aux universités, il les dispense simplement ou il réaffecte l'argent qui vient des universités, qu'elles auraient dû verser à ce fameux fonds, il leur permet de l'utiliser en gros pour embaucher des vigiles. Donc ça, c'est déjà assez étrange comme situation. Et que ça renvoie, oui, une image assez brouillée du message des universités, et que ça décrédibilise par ailleurs tout le travail que font les gens des services d'insertion ou des services RH dans les universités pour essayer, comme ils peuvent, de mettre en place des structures d'accueil, d'accompagner ce type de personnel, de faciliter la vie des étudiants handicapés, etc. Donc voilà, il y a une contradiction dans la posture et dans la communication qui a été faite suite à cette sinistre affaire qui m'a énervé sur le coup, et ce qui fait que j'avais publié ce billet qui ensuite est repris par un certain nombre de sites.
Olivier Hertzscheid, enseignant à l'Université de Nantes, merci d'avoir été notre invité ce soir sur France Culture. À l'étranger, le terrorisme frappe toujours. C'est le cas à Kaboul. En moins de 24 heures, la capitale afghane a connu 4 attentats revendiqués par les talibans. Le bilan est lourd. Au moins 41 personnes sont mortes, une centaine blessées dans ces attaques à l'explosif, mais aussi un assaut contre le bâtiment d'une ONG. Un crime de guerre, dénonce Amnesty International. À Kaboul, Mélanie Kominek.
L'assaut a duré toute la nuit. Après 10 heures de face à face, les forces de l'ordre ont abattu les 3 assaillants retranchés depuis la veille dans dans un bâtiment du centre-ville. Hier soir, une camionnette piégée a explosé dans un quartier particulièrement fréquenté par les étrangers. L'explosion ouvre alors la voie à un commando armé de 3 hommes qui s'engouffre dans un bâtiment occupé par l'ONG américaine Care International. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les terroristes vont durer jusqu'au petit matin. 3 assaillants sont alors tués et 41 personnes sont de leur côté évacuées saines et sauves. Parmi eux, 10 étrangers dont on ne connaît toujours pas la nationalité. Cependant, rien ne permet d'affirmer que l'ONG était la cible des terroristes. Mais pour les habitants du quartier, la situation reste très critique, comme nous l'explique ce jeune entrepreneur.
Chaque année durant l'été, la situation empire. Cette année, il y a eu encore plus d'attaques et maintenant elles sont ciblées. La plupart des victimes sont en général des civils et c'est vraiment triste.
Kaboul se relève tout doucement de ces 12 heures de violence, même si les cicatrices béantes de l'attaque laissent chaque passant interloqué.
En Syrie, les premières pertes de l'armée turque. 2 soldats ont été tués dans une attaque à la roquette revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Ankara mène une offensive chez son voisin depuis maintenant 2 semaines. Au Gabon, d'évidentes anomalies relevées dans les résultats de l'élection présidentielle. C'est le verdict de la mission d'observation de l'Union européenne dans l'une des provinces du pays. Les résultats n'ont pas été annoncés publiquement et le taux de participation là-bas dépasse les 99% contre 48% en moyenne dans le reste du Gabon. Et le score réalisé par Ali Bongo dans cette province lui a permis d'être réélu. Aux Philippines, la sanglante guerre contre le crime fait 44 morts par jour, chiffre révélé aujourd'hui par le président en personne. Il a été élu il y a 4 mois seulement sur une promesse, celle d'en finir avec le trafic de drogue. Bilan, plus de 1000 personnes tuées par la police. Près de 2000 autres sont tombées sous les balles de citoyens, encouragés par la rhétorique présidentielle. Une situation dénoncée par les ONG, l'ONU et même Barack Obama s'inquiètent de la situation. Il devait d'ailleurs se rendre à Manille pour en parler directement au président philippin. Finalement, la rencontre est annulée car Rodrigo Duterte l'a traité de fils de pute, le chef d'État américain, et des propos qu'il dit regretter aujourd'hui. Toujours à l'étranger, François Hollande est ce soir au Vietnam, déplacement dans l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est. Il a rencontré aussi la communauté française là-bas, l'occasion d'un discours qui donne un aperçu sur celui qu'il prononcera jeudi à Paris, un moment attendu et qui pourrait esquisser un début de campagne, Louise Baudet.
Pendant 3 jours, il a évité tout sujet franco-français. Mais le retour, c'est pour demain. Alors François Hollande se dévoile un peu au détour d'un discours prononcé devant la communauté française d'Ho Chi Minh Ville.
La France, c'est une idée, bien plus qu'une identité. L'identité, c'est ce que nous avons fait dans le passé qui nous a constitués. Mais l'idée, le projet, ce qui nous anime, ce qui nous fait avancer, ça c'est l'essentiel.
La France, une idée bien plus qu'une identité. Fil conducteur du prochain discours du président très attendu jeudi à Paris. Fil conducteur aussi de sa pré-campagne de réélection. Pré-campagne car n'en déplaise à ses soutiens, le président fixe sa propre horloge, pas question d'accélérer. Même si, c'est vrai, il y a nécessité d'envoyer un message fort. Quelle société veut-on? Comment voulons-nous vivre ensemble? Question majeure de l'élection dans l'esprit du président qui va en parler de plus en plus. Pour lui, la France doit se projeter vers l'avenir et non se replier sur son histoire, encore moins faire le tri entre les différentes couches de Français qui ont fait la France. Pour le reste, pas question d'entrer trop ouvertement dans l'arène, si ce n'est pour mettre en garde la concurrence à gauche. Une candidature certes à marquer son terrain, à préparer une autre échéance ou à changer le pays. Gouverner ou figurer, question posée à chacun et singulièrement à son protégé devenu rival, Emmanuel Macron.
C'est une décision qui va peut-être relancer encore la polémique. L'arrêté anti-Burkini de Cisco encore c'est validé par le tribunal administratif de Bastia. Le juge des référés prend le contre-pied de ses collègues de Toulon et de Nice qui les avaient suspendus après la décision du Conseil d'État. C'est ici à Cisco que l'affaire avait démarré, des violences entre communautés, alors que l'enquête avait démontré qu'aucune femme ne portait de burkini ce soir-là. On connaît la première sélection de l'Académie Goncourt. 16 romans sont en lice. On retrouve les grands noms de la rentrée littéraire. Yasmina Reza, Karine Thuil. Il y a aussi des primo-romanciers comme Frédéric Gros ou Majid Cherfi, l'un des chanteurs du groupe Zebda. Seul Serge Joncourt est absent de la liste. Son roman est pourtant salué par la critique. La liste pour le prix Renaudot est aussi dévoilée ce soir. 18 romans, 6 essais et 5 auteurs se retrouvent sélectionnés pour les 2 prix. On termine avec la météo. Elle est simple, grand soleil partout demain en France. Il y aura quelques nuages quand même du côté de Cherbourg. Les températures le matin resteront estivales, 22 à 25 degrés. L'après-midi, elles monteront jusqu'à 30 avec toujours un beau soleil partout sur le pays. C'est la fin de cette édition préparée ce soir avec Nathalie Lopez et Jean-Frédéric à la console.